Bonsoir à toutes et à tous. Je vous avais proposé la fois dernière d'essayer de détricoter ou de présenter le grave du désir auquel Cathy Langelet avait fait référence il y a deux conférences. Je le rappelle pour notre conférencier Guy Poblum aujourd'hui. Grave du désir où on s'était un peu tous perdus, et je dois dire que c'est une découverte ardue, il faut s'y atteler. Et donc ce que je vais vous proposer au fond, c'est de vous faire part de la lecture que j'en ai eue pas à pas à l'endroit où je me trouve actuellement. Et je pense que je m'arrêterai au fond, si j'ai bien compris, dans ce déploiement du graphe et dans sa construction. Il y a trois grandes étapes symbolisées par ce qu'on peut reprendre sous schéma 1, schéma 2 et schéma 3. Et en fonction du temps que je prendrai, je m'arrêterai soit au bout du 1, soit au bout du 2. Et je veux vous proposer d'avancer finalement au fil des conférences dans les premières minutes pour essayer de déplier cette question du graphe. Alors, je me suis principalement basée pour une première approche, puisque je n'ai pas lu tous les séminaires de Lacan, sur une introduction faite par Joël Dorr, qui souligne, au fond, à travers quel texte chez Lacan se déploie cette construction. Donc, je vous donne les références chez Lacan. À travers le séminaire « Les formations de l'inconscient » en 1957-1958, « Le désir et son interprétation » 1958-1959, et également le texte dans les écrits « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien », les pages 793 à 827 1960. Alors, au fond, ce graphe du désir, c'est une façon de montrer l'intrication de trois dimensions qui structurent la subjectivité du sujet, le désir, le langage et l'inconscient. Et c'est une façon donc de rendre compte de l'inscription dynamique de ces trois dimensions et des interactions qu'elles entretiennent réciproquement. Le premier stade, si on peut dire, du graphe du désir, qui est donc mis ici à ma droite, à votre gauche pour vous, nous montre au fond que, et on l'avait déjà rencontré dans les séminaires et les conférences précédentes, le désir est toujours désir d'autre chose. Il se fonde sur un en deçà de la demande, pour faire entendre un au-delà de la demande, c'est-à-dire une vérité inconsciente du sujet qui se dit à son insu. Et donc, à travers cette question de la demande, désir inconscient et langage sont intriqués, comme le montre le caractère radicalement contingent du sens. C'est-à-dire que lorsque l'on parle, ce qui fait sens n'est pas donné d'avance, c'est vraiment lié à la contingence du moment et à la contingence de celui qui parle et de celui qui entend. C'est pour ça que Lacan nous fait revenir à la notion de chaîne signifiante et au flux de la chaîne signifiante, et que dans cette chaîne signifiante, il introduit la notion de point de capiton comme ce qui va faire segmentation ou coupure, permettant la mise en rapport immédiate d'un flux de signifiants à un flux de signifiés. Donc le signifiant, c'est la matière sonore, c'est ce que vous entendez. Le signifié, c'est ce qu'on, c'est au fond le référent, ce qu'on souhaiterait dire finalement, ce qui permettrait, en liant les deux, de faire sens. Et ce point de capiton qui, à un moment dans le champ, enfin dans le flux de notre chaîne parlée, vient faire arrêt, Lacan dit qu'il implique réellement la dimension du désir du sujet, et c'est ça qui va au fond constituer la base du graphe du désir. Alors, dans le graphe, le tout premier schéma que j'ai mis ici, c'est ça qui représente. Alors, on voit au fond une chaîne de signifiants qui est symbolisée par le vecteur SS'. Ce vecteur représente donc la chaîne signifiante, exactement ce que je fais actuellement en vous parlant. Le vecteur qui fait boucle et retour delta S barré est le vecteur, pourrait-on dire, des signifiés, c'est-à-dire celui qui à un moment va arrêter le glissement des signifiés et des signifiants et permettre que ça se fixe et qu'un sens soit donné à la chaîne signifiante. La double intersection que ce vecteur rétrograde fait illustre la propriété du discours qui veut que c'est avec le dernier terme d'une séquence parlée que le premier et les successeurs du premier tirent leur signification. Donc, Cathy Langelet nous avait donné l'exemple de concupiscence. C'est seulement quand je finis sens que vous vous direz, tiens, elle n'a pas fait une succession d'injures, mais elle a dit un mot qui a un certain sens. Moi, j'avais un autre exemple que j'avais donné dans des présentations que j'avais faites, qui était dire, au fond, si je dis « je l'apprends à l'école », eh bien, comment est-ce que vous allez découper et segmenter ça ? Il y a plusieurs façons de le faire. On voit bien la façon, donc ça peut être « je l'apprends à l'école, je reprends ma petite fille à l'école » ou « je l'apprends à l'école, j'apprends cette matière à l'école ». Eh bien, la façon dont vous allez segmenter va évidemment dépendre du désir que vous y mettrez. Donc, c'est bien le dernier terme de la séquence parlée qui donne le sens au premier et au suivant. C'est donc un sens rétroactif dont témoigne ce vecteur, et c'est ce fameux effet d'après-coup dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui produit le capitonnage, le point de capiton. Alors, ce schéma qui jusque-là est assez simple se complexifie si vous passez à celui du dessous. Et donc, en fait, ici, d'abord, vous voyez que certaines lettres ont été remplacées, que les intersections des deux vecteurs, celui de la chaîne signifiante et celui, au fond, qui fait effet de sens avec son effet rétrograde, sont changés. Et en dessous, en deçà, au fond, de ce vecteur de la chaîne signifiante, dans le sens inverse, s'établit un autre cheminement, si je peux dire, celui qu'on pourrait appeler, au fond, le circuit du discours rationnel. Alors, ce circuit du discours, vous voyez que comme au premier niveau, il part du grand autre, trésor des signifiants, pour aller vers l'intersection qui fait sens, et qu'on l'a symbolisé, puisqu'il est en deçà pour le différencier finalement de ces deux premières intersections, par les lettres bêta et bêta prime. Et donc, au fond, cette façon de symboliser les choses va nous permettre d'introduire la notion du lieu du discours et de ce qu'on appelle, on en a déjà parlé au fil des conférences, la parole vide. C'est aussi ce qu'on peut appeler le lieu du discours, le circuit du discours rationnel de bêta à bêta prime. C'est un cercle du discours courant, du discours commun. Au lieu de l'autre au grand A, on trouve les signifiants, le code, on pourrait dire la grammaire, tout ce qui fait la codification de la langue, les signes, les symboles, tout ce qui est convention préétablie fondant la communication intersubjective. Il y a une possibilité de création de sens, mais elle est très réduite puisqu'elle est soumise justement à l'usage du code. Mais en même temps, c'est ce qui fait que nous nous comprenons. Donc ce discours est relativement vide et il touche à ce qu'on peut appeler la parole vide, qu'on trouve aussi en analyse. C'est au fond le lieu du discours où le parler s'efforce de se faire entendre. Et c'est ce qu'on peut retrouver comme répétition dans la parole du sujet, tout ce qui est relativement creux et vide. Les deux vecteurs, comme vous le voyez, sont tracés en sens contraire pour indiquer qu'ils glissent l'un vers l'autre. Et les deux points d'intersection, le grand A, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, est le lieu du référent symbolique du code et du grand autre, ce que Lacan appellera le trésor des signifiants. Et l'autre, qui est Ypsilon, c'est ça est le lieu où va se constituer le sens à partir du code, c'est-à-dire que c'est le lieu du message. Ça, c'est important. C'est là, au fond, par effet rétroactif, que vous pouvez saisir quelque chose du message de l'autre. C'est quand sa phrase est terminée que ça fait retour et que vous pouvez saisir quelque chose du message de l'autre. Mais en même temps que c'est le lieu du message, c'est pas si simple que ça, parce que si on s'arrêtait là, ça voudrait dire que lorsque je parle, ce que je dis au fond est univoque, il n'y a pas d'équivoque, je vous transmets un message, point à la ligne. Mais à la place de ce message, c'est pas aussi simple, puisque au-delà de ce que je dis ou de ce que chacun dit dans sa parole, il y a toujours quelque chose de dit en plus à l'insu du sujet lui-même. Et donc, il y a une sorte de vérité du sujet qui se dit et qui n'advient que parce que le discours ne traverse pas vraiment la chaîne signifiante. Donc, à la fois, il y a un discours qui est vide, codé, et à la fois, il y a toujours le sujet qui en dit un peu plus que ce qu'il ne pense en dire vraiment. Et donc, on peut dire du discours qu'il court-circuite finalement ce trajet idéal du message symbolisé par la boucle supérieure qui va du grand autre au point de Capiton. Il court-circuite ce circuit. Et est représenté donc par le vecteur bêta bêta prime. Et ce circuit-là ne veut rien dire du point de vue de la vérité du sujet. C'est sa parole vide. Alors, je peux vous donner comme point de repère, mais ce sera à tenir pour y revenir, que le bêta prime, on l'appelle l'objet métonymique, c'est-à-dire l'objet métonymiquement délégué à la place de l'objet du désir. Et le bêta, ça c'est quand même important, c'est dans le discours le sujet, le je. Donc c'est la place dans le discours de celui qui parle. Au fond, c'est ce que les linguistes appelleraient le je de l'énonciation. Hein ? Lorsque je dis je, c'est de ce point-là que ça part. Alors, juste pour mémoire, Lacan dit, et je ne vais pas le développer ici, que déjà rien qu'avec ce schéma, on peut commencer à expliquer le fameux jeu de mots que Freud avait noté, le jeu de mots familionnaire qui avait été émis par quelqu'un invité par Rothschild et qui voulait dire « il m'a reçu de façon familière ». Mais en fait, il pensait « mon millionnaire m'a reçu de façon familière » et donc il a télescopé « familière » et « millionnaire » et il a dit « il m'a reçu de façon familionnaire ». Je ne vous déplie pas le détail, mais on peut l'expliquer à partir de là. Alors, à travers la suite de la construction du schéma, Lacan va utiliser trois formules sur lesquelles je reviendrai peut-être plus tard, du rapport du désir au signifiant. Au fond, il va essayer, dans ce schéma, de faire entrer différentes déclinaisons de ce rapport du désir au signifiant. Et il va partir du fait que parler, c'est d'office demander quelque chose, et demander, c'est désirer. Ainsi, il en arrive à la dernière version, au fond, du schéma 1, celle que j'ai mis dans la partie schéma 1 en haut à droite, où vous voyez que le vecteur qui était la chaîne des signifiants a été remplacé par la lettre D et la lettre S. La lettre D, au fond, symbolise la demande. Alors, le vecteur DS, c'est donc la succession diachronique de la chaîne signifiante. C'est ce que je vous ai dit, c'est lorsqu'on parle. Diachronique, pourquoi ? Parce que ça se détend dans la chaîne du temps. C'est linéaire lorsqu'on parle. Ça a une direction et ça se déplie dans le temps. Et le vecteur delta I, qui est donc le recoupement rétrograde sur la chaîne DS, dont la signification provient du point de Capiton. Le delta, au fond, c'est le sujet qui entre dans le jeu de la chaîne signifiante DS. À partir de quoi est-ce qu'il entre? Tout premièrement, enfin, je veux dire, à l'origine, le sujet dans cette chaîne signifiante, eh bien, c'est à partir d'une intention qui s'appuie sur un besoin. Il faut revenir à l'idée du nourrisson qui adresse la première demande due à un besoin de nourriture, par exemple. Et le « i », il symbolise la réalisation idéale de sa demande, c'est-à-dire il a demandé et il reçoit d'une façon idéale. La réponse idéale, on pourrait dire. Mais lorsque ça se passe, il y a la première rencontre avec le désir, qui est d'abord le désir de l'autre. Alors, ce désir de l'autre, il peut apporter une réponse à l'appel du sujet Donc, l'autre qui peut apporter une réponse à l'appel du sujet, mettons le nourrisson, se trouve par l'appel même interpellé par le sujet sur la forme de cette question dont on parlait il y a deux conférences, Kevoy, que veux-tu ? Comme une prise de la demande sur le besoin qui va structurer le désir comme désir du désir de l'autre. Alors ça c'est un peu complexe, mais je vais le déplier ici, car en effet, c'est la réponse de l'autre à cette demande qui va donner une signification à la demande, au signifiant du sujet. Et ça, on peut le comprendre aisément que lorsque l'on fait une demande, l'autre qui répond peut choisir tel ou tel signifiant, puisque les signifiants sont commutables, on peut les interchanger. Et donc, de par le choix que l'autre va faire dans la réponse à la demande, eh bien, au fond, il va mettre en valeur son propre désir à lui. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est la réponse de l'autre qui va attester d'une signification de ses signifiants à lui, le sujet qui demande. Et la signification dépend donc du bon vouloir de cet autre, de son désir. L'autre fixe la signification de la demande. C'est en ce sens que la demande adressée à l'autre se soutient bien d'un « que veux-tu ?» dès lors qu'elle se solde par une réponse où le sujet fait l'expérience du désir de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. L'autre est libre de répondre à la demande de différentes façons et selon la façon dont il va répondre, il va dire quelque chose de son propre désir. Eh bien, je crois qu'on va en rester ici pour aujourd'hui. Comme ça, ça vous laisse respirer et on reste à ce premier stade du schéma. Alors bon, moi on est en construction ici et je suis très à l'écoute de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez que la fois prochaine je passe au deuxième et ainsi de suite la fois d'après au troisième ou bien non? Alors ceux qui auraient envie que ça se poursuive, vous pouvez lever la main, comme ça me donne une idée. Je prendrai un tout petit temps pour passer au deuxième temps. Voilà. Alors, je vais céder la parole à Guy Poblom, qui est notre conférencier aujourd'hui, et qui va nous parler des chapitres 16 et 17. C'est bien ça ? C'est ça. Voilà. Alors, Guy Poblom est psychanalyste à Tournai, et il est également directeur thérapeutique au Courtil, une institution dont vous avez entendu parler souvent ici, dans un groupe d'enfants et d'adolescents.
C'est ça. Voilà.
Je vous cède la parole, Guy.
Merci, bonsoir. Bien, donc j'ai à vous commenter ce soir donc ces deux chapitres, donc 16 et 17 donc du séminaire sur le transfert, et donc le titre qui a été donné à cette soirée, à la soirée suivante, prochaine, c'est la castration, le phallus et l'analyste. Bien, alors, donc pour essayer de détricoter un peu ce que Lacan fomente dans ces deux chapitres, Je me suis appuyé notamment, je me suis essentiellement sur un commentaire que Jacques-Alain Miller donc, a fait. Donc, vous savez que Jacques-Alain Miller est celui qui a en charge l'édition. Ça va la voix là, c'est bon? Donc l'édition des séminaires de Lacan. Et donc, il est de coutume en fait que dans son cours à Paris, quand paraît un séminaire de Lacan, il en fait un commentaire dans son cours. Et donc, puisque le séminaire sur le transfert est paru en 91, je crois, donc dans ses leçons 11, 12 et 13 de son cours, hein, qui est intitulé « Harangue », donc Jacques-Alain Miller a fait un commentaire de ce séminaire, et je crois, principalement autour des chapitres qui nous occupent là, pour le moment. Donc, ça m'a aidé beaucoup à éclairer un peu ce qu'il y a dans ces chapitres, et cela permet d'essayer de suivre Lacan dans ses constructions, dans son, je le cite, « discours difficile, de plus en plus difficile de par sa visée ». Alors, si Lacan lui-même dit que c'est difficile, donc ça veut dire qu'en effet, il faut s'accrocher. Bon, alors j'ai essayé de m'accrocher pour moi-même et aussi pour vous, pour essayer de tirer quelques éléments de ce qui s'y passe. Donc, il est comme toujours dans son séminaire, Lacan cherche. Hein, donc, vous savez que qu'il n'est pas dogmatique. Il est plutôt dialectique, il est en perpétuel remaniement, donc son enseignement est en perpétuel remaniement. Il ne n'hésite pas, même s'il ne le dit pas, à se contredire lui-même. Ce qui fait qu'un élément, par exemple le fameux objet petit a, eh bien ça bouge dans son enseignement, on l'a pas une fois la définition, c'est pas dans un dictionnaire qu'on va trouver, même pas un dictionnaire de psychanalyse, même s'il est bien foutu, qu'on va trouver la définition de l'objet petit a, puisque ça bouge. Alors notamment, donc dans son cours, Jacques-Alain Miller situe le fait suivant, que le phallus est présenté par Lacan comme ce qui est le principe organisateur de la libido du sujet. Et il en rend compte, parce que ça n'a pas toujours été comme ça chez Lacan. Voilà. Alors, dans la première partie donc, du chapitre 16, Lacan nous parle d'un tableau qu'il a vu à Rome, je pense, et qui présente un moment du mythe de Psyché et Eros. Alors, je l'ai fait circuler là, le tableau, il est ici, sans doute vous l'avez déjà vu ou vous le faites circuler. C'est un tableau peint par un peintre qui s'appelle Zucchi, je ne sais pas comment on prononce en italien, qui est un peintre du XVIe siècle. Et donc ce moment qui a été saisi par le peintre a été saisi par de nombreux peintres. Par contre, Lacan note que l'histoire, donc il y a un texte qui présente cette rencontre, disons, de Psyché et Eros. Il n'y a qu'un seul texte qui existe. C'est un texte écrit par Apulée, qui est un auteur latin du IIe siècle. Ce texte est intitulé « L'âne d'or », dans lequel on trouve le conte d'Eros et de Psyché. Alors Psyché, au départ de l'histoire, est considérée comme aussi belle que Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Et donc elle dérange le monde des dieux. Pour cette raison, elle doit être livrée à un monstre qui n'est autre qu'Eros. Mais il se fait que Eros est séduit par la beauté de Psyché et il l'enlève et la cache dans un endroit secret où elle jouit avec lui d'un bonheur divin. Cependant, Eros lui interdit formellement, expressément, de façon insistante, de chercher à le voir. Il doit rester invisible, même s'il ne dit pas ce que pourrait être la conséquence d'une transgression de cet interdit. Mais Psyché, comme le souligne Lacan, n'est pas une déesse, elle fait partie du monde des humains, veut revoir ses sœurs. Et elle insiste beaucoup auprès d'Eros et en obtient la permission. Ces dernières, pour des raisons obscures, tentent d'amener Psyché à violer la promesse qu'elle a faite à Eros. Et pour la convaincre, elles lui font croire qu'il s'agit d'un monstre épouvantable, d'un serpent hideux, et qu'elle est certainement en danger. Ces suggestions, croisées à l'interdit insistant d'Eros, la poussent à vouloir lever le voile et à voir. C'est ce qui est représenté dans le tableau. C'est-à-dire, c'est le moment où Psyché met la lumière sur le corps d'Eros. Et pour ce faire, elle s'arme d'un tranchoir, dit Lacan, d'un cimeterre, qui est en fait un petit sabre. La mémoire collective, dit Lacan, retient qu'Eros s'enfuit et disparaît. Mais, dit-il, ce moment que le peintre saisit cache quelque chose. Bon, on va essayer de saisir quoi ? Bon. Je ne vais pas le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'Eros ? Évidemment, Freud parle d'Eros et de Thanatos. Donc vous savez ça. Et donc, Miller reprend cette fonction de l'Eros pour savoir de quoi il s'agit, chez Freud et chez Lacan. Donc, Eros, dit-il, c'est un autre nom pour dire la libido chez Freud ou le désir chez Lacan. Freud va faire dériver la fonction d'Eros du mythe d'Aristophane. Ça tombe très bien, puisque vous avez entendu parler ici cette année du mythe d'Aristophane. Peut-être que vous vous en souvenez. Qu'est-ce que le mythe d'Aristophane ? Dans le banquet. Donc, ce sont une succession de discours sur l'amour. Et donc, Aristophane donne sa version de ce qu'est l'amour. Et la version qu'il avance de l'amour, c'est le mythe de la sphère. Vous vous rappelez de ça sans doute. L'être humain est considéré comme une unité sphérique, parfaite, coupée en deux moitiés, qui s'efforcerait de se rejoindre dans l'amour. Je vais faire un petit dessin, peut-être que ça nous aidera. Donc en fait, on a une sphère qui est coupée en deux, et donc ce qui fait qu'on a c'est compliqué déjà, hein. Déjà c'est pas parfait. Enfin voilà. Ça devrait être normalement une coupure bien faite. Et donc, Eros, la libido, c'est ce qui ferait se rejoindre ces deux moitiés. Bien sûr, Freud, dans les trois essais sur la sexualité, d'emblée, ne croit pas en la perfection, donc, car il découvre, disons, toutes les torsions de la sexualité humaine. Il découvre la sexualité comme non harmonieuse. Mais néanmoins, dit Miller, son point de repère, pour ce qui est de la libido, c'est cette recherche de l'unité, c'est le mythe de l'un. Donc, on a affaire ici à une perte, en effet, donc cette sphère coupée en deux implique une perte, donc chaque moitié a perdu l'autre moitié. Et pour Aristophane et pour Freud, le complément de cette perte, c'est l'autre sexe. Alors, Lacan fait aussi référence à Aristophane. mais pour le contrer par un autre mythe, qui s'appelle, qui est appelé le mythe de la lamelle. Alors je me suis rendu compte, ça c'est donc dans Miller, Miller va amener ça, je me suis rendu compte que quand même, le mythe de la lamelle, donc que je vais essayer d'expliquer, de vous expliquer, c'est quelque chose qui est un peu plus tard dans l'enseignement de Lacan. Mais néanmoins, je pense que ça permet de saisir ce qui est en jeu ici dans le séminaire du transfert. C'est-à-dire que ça permet de saisir ce qui est à la pointe de ce que interroge Lacan, de ce que recherche Lacan. En fait, sans entrer dans tous les détails, la lamelle, cette fameuse lamelle, fait référence aux membranes du placenta dont se sépare le fœtus pour venir à la vie. Et donc, dans ce cas-ci, le complément de l'être du sujet, ce n'est pas tellement ce dont on a été séparé et qu'on veut retrouver, donc pour retrouver une sphère, mais ce complément a le statut de déchet, en quelque sorte. Je vais aussi essayer de tenter un petit schéma, hein, mais enfin, c'est... je représenterai ça quand même quelque chose comme ça. Ça, c'est pas Lacan ni Miller, c'est moi. Donc, ça met risque et péril. Donc là, on a... ce qui tombe. Ce qui est un déchet. De ce qui est... irrécupérable, en fin de compte. C'est ça la grande différence entre les Ross de Lacan et les Ross de Freud, c'est que cette part est foncièrement perdue, elle est irrécupérable, et c'est de structure pour le vivant en tant que sexué et en tant qu'habitant du langage. Et donc la libido chez Lacan n'a pas cette fonction d'unité comme chez Freud. Là où chez Freud, la libido et médiatrice entre les deux sexes, c'est ce qui rassemble les deux sexes. Chez Lacan, la libido est ce qui reste de ce complément perdu à jamais. La libido est de fait supplémentaire. Donc Freud situe la libido ici. Donc ce qui va tendre à faire l'union, mais chez Lacan, puisque, disons, avec le mythe de la lamelle, il présente les choses comme le sujet séparé pour venir au monde d'un bout de lui-même, d'accord, qui est perdu à tout jamais, la libido, elle est là, disons, on ne sait même pas très bien la situer, elle n'est pas entre son corps et l'objet déchet, c'est les membranes du placenta, puisque les membranes sont perdues, d'une certaine façon, elle vient en supplément. Vous pouvez dire, là, je dessine ça comme ça, elle vient en plus. Elle n'est pas médiatrice. Miller en conclut que chez Freud, finalement, sa théorie d'Eros, qui rassemble, qui pousse à trouver son complément, est une théorie qui se passe de la castration. Oui, on peut saisir ça. Si la libido est ce qui veut faire un, ce qui pousse au un, ce qui pousse à ce que chaque être trouve son complément dans un autre, d'accord ? D'une certaine façon, ça fait l'impasse sur la question de la castration. Par contre, chez Lacan, le fait que l'être, le sujet, est séparé d'un bout de lui-même, a tout jamais perdu, ça met en jeu la castration, d'une certaine façon. Même si le rapport entre les sexes est impossible, y compris chez Freud, même si le rapport entre les sexes est tordu, la conception d'Eros freudienne, est quand même sur cette pente-là de faire le 1. Tandis que chez Lacan, Eros, la libido, n'est que ce qui reste après l'opération castration, qui concerne un objet irrémédiablement perdu. Ce n'est pas une libido qui cherche son complément, c'est une libido, non pas qui cherche, mais, dit Miller, qui est au principe des objets de la pulsion, des objets perdus. Puisque, évidemment, les objets de la pulsion, donc qui concernent la libido, ils existent. Et donc, on va voir de quoi il s'agit. Donc, on saisit bien que les objets de la pulsion, qui sont articulés à cet objet irrémédiablement perdu, ne vont jamais venir compléter, faire complément pour le sujet. On peut saisir de cette façon, un peu après coup, pourquoi Lacan a démarré ce séminaire sur le transfert avec le commentaire du banquet de Platon, et surtout, comment il en est arrivé à isoler chez Socrate l'objet précieux qu'il détient, l'agalma, qui est la raison de l'amour d'Alcibiade à son égard. Vous vous rappelez de ça. Lacan fait se rejoindre la fonction de l'agalma, donc de cet objet précieux que Socrate détient, et celle de l'objet partiel, l'objet de la pulsion. L'objet du désir humain est foncièrement partiel. L'autre, s'il est considéré comme total, totalisé, objet total, n'est peut-être, dit-il, que l'addition d'un tas d'objets partiels. À l'idée d'un autre de l'amour totalisé, enfin on voit bien là comment ça. Là on se situe de ce côté-là, côté gauche, qui présuppose l'harmonie, qui se manifesterait par l'oblativité, dit-il, par le fait d'aimer l'autre pour lui-même, pour ce qu'il est, dans la génitalité accomplie. Donc, à cette idée d'un autre, de l'amour totalisé, Lacan oppose un amour qui s'attache à des morceaux, à des objets partiels, pas du tout forcément jolis d'ailleurs, mais qui sont ce que l'autre détient secrètement. L'amour, donc, ne s'adresse pas à l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Donc on pourrait ici mettre donc l'être et ici l'avoir. C'est parce que Socrate détient en lui un objet, l'agalma, qu'Alcibiade le désire. Donc l'amour s'adresse non pas à Socrate comme être, comme personne ou comme être complet. L'amour ne s'adresse pas à Socrate pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Alors, dans la théorie analytique, les objets partiels, oral, anal et génital, dit Lacan, sont articulés par Karl Abraham. Vous en avez sans doute entendu parler la dernière fois. Abraham distingue les différents, distingue ces objets partiels à partir de stades de développement de la libido. Alors, le stade oral, le stade anal, le stade génital, dans une espèce de progression. Alors Lacan, ces objets partiels, qu'est-ce qu'il en fait ? D'abord, il les dénature. Il montre comment ces objets partiels n'ont rien de naturel du fait qu'ils doivent en passer par le détour de la demande. Ils sont dénaturés du fait d'en passer par la parole, par le symbolique. Du fait d'en passer par la demande, immédiatement, cela instaure, comme vous le disiez tout à l'heure, un au-delà de la demande, qui est demande d'amour. Donc l'objet devient symbole de cet amour, par le don, et un en-deçà de la demande, où Lacan situe le désir, en tant que l'objet qui se présente n'est jamais adéquat. L'objet n'est jamais trouvé, il n'est jamais que retrouvé. Dans la suite des stades du développement de la libido, nous trouvons donc l'objet oral, l'objet anal et puis enfin l'objet génital qui pose le phallus comme étant l'objet partiel correspondant à ce stade. Mais Lacan, dans ses pages, estime que la perspective développementale de la libido est problématique. Le phallus, dit-il, n'est pas une spécification enfin venue au jour de ce qui aurait été auparavant l'objet oral puis l'objet anal. Donc, dit-il, il ne s'agit pas d'une progression qui conduirait à la génitalité, dont la phase phallique ne serait qu'une étape. Comme il le dit, la différence entre le désir et la demande, qui marque les premières étapes de l'évolution libidinale, est déterminée par l'action rétroactive venant d'un certain point qui est le stade génital. Alors, quand il dit stade génital, ça prête un peu à confusion parce que Freud, je pense, utilise le stade phallique. Donc, c'est-à-dire, quand il dit le stade génital, c'est du phallus dont il est question. Donc, en fait, ce qu'il nous dit, Lacan, c'est que c'est à partir du phallus que les différents stades de la libido s'organisent. Donc le phallus est le point de structure, le point de principe qui organise la libido humaine dès le départ. Même si les choses en sont à ce point pour le sujet, que le sujet met en jeu l'oralité, par exemple, ou l'analité, ce qui organise son rapport à l'objet oral et l'objet anal, c'est le phallus. Donc ça veut dire qu'il rencontre d'une certaine façon le phallus comme point de structure. Donc, encore un petit dessin. Ça allège les dessins. Donc, si simplement, dans la théorie analytique présentée par Abraham, surtout, les objets partiels sont présentés dans des stades de développement, Lacan va présenter les choses autrement. Donc il va dire que ce qui d'emblée organise le stade oral et aussi bien le stade anal, c'est le phallus. Il n'y a pas de petites flèches ici, qui vont dans le sens d'une progression, comme chez Abraham. Miller nous éclaire sur ce point. Je vais essayer de vous partager ça avec vous. Au début de son enseignement, Lacan développe sa théorie du désir, donc de la libido, à partir d'un texte de Freud, qui est l'introduction au narcissisme. Avant ce texte, Freud distingue deux types de pulsions. Les pulsions d'autoconservation, qui sont les pulsions du moi, qui permettent à l'individu de rester vivant. Et les autres types de pulsions, qui sont les pulsions sexuelles, qui s'adressent aux objets, les objets érotiques. La libido freudienne concerne seulement à ce moment-là les pulsions objectales. Donc, il n'y a qu'une seule partie des pulsions qui sont libido, libidinales, c'est celles qui s'adressent à l'objet, donc sont les pulsions sexuelles. Puis vient le texte pour introduire le narcissisme, qui montre, à partir de l'investigation de la psychose d'ailleurs, que la libido peut migrer. Elle peut passer des objets au moi. En effet, dans son étude du président Schreber, il était question du séminaire 3 ici, une année, hein, je crois. Donc, qui est le grand texte de Freud sur la psychose, il constate que le sujet peut retirer son intérêt des objets et du monde extérieur. C'est ce que le président Schreber appellera le crépuscule du monde. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a le sentiment de la fin du monde, pour dans un second temps reporter cette libido, cet investissement sur le moi, ce qui donnera la dimension mégalomaniaque du cas. Mais ça veut dire qu'à partir de là, Freud fait du moi un objet. Un objet que la libido, que les pulsions sexuelles peuvent investir. Et même, il fera du moi un objet privilégié, puisqu'il le définit comme le réservoir de la libido. Donc finalement, la libido, qui est dans le moi, elle part du moi pour investir le monde. Mais le moi lui-même peut être pris par un objet, comme un objet, peut être considéré comme un objet. C'est le narcissisme. Lacan part de cette théorie, du moins chez Freud, cette théorie du narcissisme, pour mettre au point la fonction imaginaire chez le sujet, avec le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est le lien qu'entretient le petit homme avec son image. Bon, vous connaissez sans doute cette description que fait Lacan du stade du miroir, c'est-à-dire que un enfant autour de 6 mois, porté dans les bras de sa mère, se voit dans le miroir et jubile de se reconnaître. Et d'ailleurs, il se retourne vers sa mère qui le porte et qui va lui dire « Tu vois là, dans le miroir, c'est toi. » Ce qui va permettre au sujet de s'identifier à cette image. Pour Lacan, le moi se forme à partir de l'image reflétée dans le miroir par le mouvement de l'identification. En quelque sorte, l'image reflétée dans le miroir est le premier objet du désir du sujet. Et du coup, dit-il, tous les objets investis par la libido vont refléter la forme imaginaire du moi. Ça va refléter sa propre image. Donc le modèle des objets du monde que le sujet va investir, c'est sa propre image. Donc la théorie du désir du premier Lacan est centrée sur l'image narcissique. Dans la suite de son enseignement, Lacan va développer sa théorie du signifiant et du symbolique. C'est ce qu'on appelle le deuxième Lacan, deuxième période de l'enseignement de Lacan. Mais aussi le rôle central du complexe de castration avec son corollaire, le phallus. Le phallus est cet élément, on en a aussi parlé, puisqu'on a parlé du séminaire 4 ici, je me rappelle, qui s'introduit dans la dialectique de l'enfant avec sa mère. Vous vous rappelez du petit Hans dont il a été question ici. C'est de l'an dernier d'ailleurs. L'enfant se rend très vite compte qu'il n'est pas seul avec sa mère, qu'il ne comble pas tout pour sa mère, qu'il n'est pas tout pour elle. En fait, la mère se promène dans le monde avec son manque, avec son désir. Et c'est ce que Lacan va dénommer le phallus. Le phallus est ce qui va venir nommer ce manque de la mère. C'est moins fille, moins petit-fille. Dans un premier temps, l'enfant, Hans, en l'occurrence, va essayer de leurrer ce manque en se faisant passer pour le phallus, essentiellement en s'identifiant au phallus. Le désir du névrosé étant dès lors défini par une identification au phallus, à être le phallus. Donc, dans un premier temps, le désir est articulé à l'image du corps. Ok. Dans un second temps, chez Lacan, le désir est articulé à la castration et au phallus que souhaite être le sujet, l'enfant, pour la mère. Bon, on pourrait dire que d'une certaine façon, on pourrait situer le phallus ici. Dans cette théorie de Lacan, on pourrait situer le phallus ici. Donc, ce qui vient dire ce qui manque à la mère. Donc, l'enfant ne vient pas combler ce qui manque à la mère. Ça, c'est l'Œdipe. C'est la loi de l'Œdipe. Donc, la mère, elle se balade. On pourrait appeler ça donc la mère, disons. Elle se balade avec son manque. Et c'est ce que Lacan va appeler moins phi. Voilà. Elle manque du phallus. Le phallus, c'est finalement le symbole du manque. Donc on constate qu'à partir de ce moment-là, c'est le phallus qui prend pour Lacan la place du moi comme réservoir de la libido. Le point d'identification principal, c'est le phallus qui devient l'image narcissique par excellence. D'ailleurs, dans le schéma R de Lacan, donc je voyage un petit peu hein, avec Miller, Lacan, donc, dans la question préliminaire, dessine un schéma du sujet, enfin qui essaye d'agencer symbolique, imaginaire et réel. Et donc, ça se présente comme ça. C'est tout un truc comme ça, je fais de mémoire. Et donc là, il y a le réel, ici le symbolique, et là l'imaginaire. Et là, il met le phallus. Donc on voit que ici, l'axe A', c'est l'axe imaginaire. Donc d'accord ? Donc le rapport du sujet à l'image de son corps, au miroir. Donc ça, c'est le premier Lacan. Et il fait, dans le schéma R, chapeauter l'axe imaginaire, qui est à deux termes, par le phallus qu'il a. Et donc, d'une certaine façon, il va mettre le phallus aux commandes de la fonction imaginaire chez le sujet. Le phallus devient l'élément structurant de l'imaginaire, et donc du rapport à l'objet. En fin de compte, les objets de la libido ne vont plus refléter l'image du corps, mais le phallus. C'est le point de référence pour tout objet investi par la libido. C'est ce qui explique que ce schéma-là, c'est-à-dire que à partir du développement du complexe de castration, eh bien, c'est à partir du phallus que les objets vont prendre leur fonction. C'est le phallus qui est qui devient le modèle, disons, le point structurant de tous les objets qui sont investis par le sujet. Dans ces conditions, on saisit bien que le développement de la libido n'est pas du ressort d'une maturation qui aboutirait à la génitalité, mais à partir du moment où le phallus est le point de référence pour ce qu'il en est du rapport à l'objet, le phallus est aussi ce qui détermine le rapport du sujet aux objets partiels, aux objets de la pulsion, à l'objet oral, à l'objet anal. Bon, alors, toute la difficulté du texte, donc du texte de Lacan, dans le séminaire du transfert, là, ces chapitres 16 et 17, c'est de saisir le statut du phallus. Voici ce qu'il dit. Il y a toute une ambiguïté autour de la question du phallus. Car le phallus prête au glissement, au déplacement, aux substitutions, dans des formes multiples, quasi ubiquistes, dit-il. Ubiquiste, ça veut dire que ça se retrouve partout. Pourquoi ? Parce que la fonction du signifiant phallus est à deux extrêmes, le symbolique et l'imaginaire. C'est ici que ça se complique. Bon, que le phallus prête au glissement, au déplacement, aux substitutions, etc., ça peut se comprendre d'une façon assez, assez simple. Une fois que dans une conversation s'introduit, s'immisce la dimension sexuelle, eh bien, vous pouvez remarquer, c'est très fréquent, que vous pouvez dire ce que vous voulez, tout de suite c'est interprété du côté de la sexualité. Et donc ça veut dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, eh bien, ça prête à rire, parce que derrière chaque mot, n'importe quel mot, il y a la signification sexuelle qui surgit. C'est ça que Lacan dit par le phallus prêt au glissement, au déplacement, aux substitutions. Il est partout, le phallus, finalement. Et donc, ce qu'il cherche à distinguer, c'est la dimension imaginaire du phallus et la dimension symbolique. Et alors, il essaye de saisir ça dans ses pages. Bon, il n'y arrive pas complètement, mais enfin, il donne quelques points, quelques indications pour essayer de saisir ça. Donc Lacan va introduire une distinction entre ce qu'il appelle alors insignifiant imaginaire. Ça, c'est quand même costaud, parce que c'est paradoxal. Puisque le signifiant, c'est plutôt de l'ordre du symbolique. Et puis, il la colle avec l'imaginaire, insignifiant imaginaire, le phallus. Il dit que le phallus, c'est insignifiant imaginaire. En tant qu'intéressé concrètement, dit-il, au niveau du complexe de castration. Et il oppose donc à ce phallus, signifiant imaginaire, le symbole grand phi, symbole là j'ai dérapé, où se produit le manque de signifiant. Ce n'est pas du tout la même chose, mais on va essayer de tenter de nous approcher de cette différence. Donc là on dirait c'est phi, petit phi. Et alors là, il dit, grand phi, c'est un symbole. Il ne dit pas signifiant, hein. Il dit symbole. Oui, c'est ça, c'est un symbole à la place où se produit le manque de signifiant. Donc c'est là, on a un signifiant imaginaire. Et en dessous, on a un symbole qui vient à la place où il manque un signifiant. Donc, c'est ça qu'il faudra essayer de comprendre. Alors, le phallus comme signifiant imaginaire, d'abord. C'est donc un signifiant qui est de l'ordre du symbolique, puisqu'il symbolise le manque. Rappelez-vous, mais ce qui est important de saisir, c'est qu'il garde sa référence au corps, à l'image du corps. C'est pour ça qu'il dit signifiant imaginaire. La castration ne porte pas sur un organe réel du corps, mais elle maintient par le phallus sa référence au corps. Miller indique qu'avec la référence au signifiant imaginaire qu'est le phallus, on retrouve d'une certaine façon la conception freudienne de la libido. Car le phallus est ce qui permet d'articuler la relation entre les sexes. Qu'est-ce qu'une femme cherche dans l'homme? Qu'est-ce que l'homme cherche dans une femme? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans le corps de l'autre? Donc, il y a ou il n'y a pas le phallus. Donc, on pourrait dire, bon, c'est pratique les trucs qui glissent là, que d'une certaine façon, avec le signifiant imaginaire, on se retrouve d'une certaine façon ici. C'est-à-dire que le complément de la perte, c'est l'autre sexe. D'accord? C'est l'autre moitié. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a entre un homme et une femme? Qu'est-ce qu'il n'y a pas entre un homme et une femme? Qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Ben, on mettrait là le phallus. Qui est le médium par lequel un sexe se rapporte à l'autre. On retrouve en fait la fonction de la libido freudienne, qui est ce qui pousse vers le complément dont on est séparé. Donc le phallus, c'est un signifiant prélevé sur le corps, sur l'image du corps. C'est un signifiant de la libido, en tant que cette libido, c'est le désir, c'est le signifiant du désir articulé à un manque. Alors, ce phallus-là est insuffisant pour rendre compte de la libido telle que Lacan la développe dans le mythe de la lamelle. L'objet dont il s'agit dans ce mythe, Lacan le présente comme un objet qui ne relève pas de l'imaginaire, qui ne relève pas de l'image du corps. Donc c'est là on se retrouve alors plutôt du côté droit, c'est un déchet, ça n'est pas prélevé sur le corps. Les membranes ne sont pas prélevées sur le corps. Elles sont en plus. Les membranes du placenta. Ce qui figure, donc la libido, ce n'est pas Eros tel que le peintre Zucchi, on dit en italien, je ne sais pas comment on dit, le représente comme un beau jeune homme, donc vous voyez sur le, donc sur le, l'image là, mais plutôt comme Eros, plutôt comme, comme les sœurs de Psyché le représentaient, c'est-à-dire comme quelque chose de monstrueux. Ce n'est pas quelque chose vers lequel on est attiré. D'accord ? C'est quelque chose de sans figure. Comme une abibe, dit Lacan. Sissipare, immortel, sans forme. Ce n'est pas un objet repérable sur le corps. Lacan l'appelle organe incorporel. C'est en fait ce qui, de l'organisme, déborde le corps. Ok, hein ? On peut comprendre ça. Le corps, c'est ça, finalement. Le corps, c'est ça. C'est ce qui est marqué par la castration. Donc il lui manque quelque chose. Et donc l'organisme, enfin l'objet ici qui est avancé par Lacan, cet objet-là, c'est ce qui, de l'organisme, déborde du corps. Ça appartient à l'organisme. Mais ça ne fait pas partie du corps, c'est en plus. Donc ça déborde de l'image du corps. D'une certaine façon, donc, les objets perdus, ce sont des éléments qui ne tiennent pas au corps, qui manquent au corps, qui ne se retrouvent pas dans l'image du corps, et que la libido lacanienne anime dans les pulsions pour restaurer la perte que le sujet a subie. C'est à cet endroit-là que Lacan va situer le symbole phallique, qui est donc autre chose que le signifiant imaginaire moins phi. Donc on va mettre là le moins phi, et là on va mettre cette libido ici, il va l'appeler donc, ah ben on va faire comme ça, c'est très bien, hop, grand phi. C'est pas mal vu. Pour en revenir au tableau de Zucchi. Regardez. Au centre du tableau, il y a une fleur, son bouquet et le vase. Derrière, il y a une lumière intense qui porte sur le phallus de l'Eros. Bon, c'est... Ça paraît évident. Donc au moment où Psyché veut voir donc l'Eros, donc ce qui est mis en évidence, c'est ce qu'il y a derrière le bouquet, derrière la fleur. Et Lacan nous dit, page 267, puisque donc Psyché vient avec son tranchoir, d'accord, c'est que, dit-il, certains penseront qu'il y a là une intention, celle de représenter la menace de la castration dans la conjoncture amoureuse. Mais ça, si on y réfléchit, ça voudrait dire qu'on se retrouve d'une certaine façon de ce côté-ci. D'accord ? Et il ajoute que c'est pas du tout ça. Il faudrait en revenir, dit-il, mais plutôt ce dont il s'agit. Alors cette phrase, elle n'est pas simple, mais enfin, elle dit bien les choses. Les fleurs qui sont devant le sexe d'Eros, elles ne sont si abondantes que pour que l'on ne puisse voir que derrière, il n'y a rien. Et donc, en effet, alors j'ai été voir chercher ça sur Internet, et c'est la première que j'ai rencontrée, parce qu'il y a le gros plan sur la fleur et sur le phallus. Et donc, en effet, on a beau chercher, on ne voit rien. Et c'est ça qui a marqué Lacan dans ce tableau-là. Il n'y a littéralement pas la place du moindre sexe. Donc, dit-il, il n'y a rien à trancher, puisque c'est déjà disparu. Il me semble que ce qui illustre ici ce tableau, et que met en avant Lacan, si c'est la castration dont il s'agit ici, ce n'est pas celle d'un signifiant imaginaire, prélevé sur le corps, mais c'est d'une castration plus radicale, et d'un phallus qui n'est plus rivé au corps, qui n'est plus rivé à l'image du corps. Lacan essaye, comme le dit Miller, de le dévisser de l'imaginaire, donc de séparer le phallus symbolique, comme symbole, de l'imaginaire. Donc c'est-à-dire que Lacan, par cette recherche du symbole phallique, du grand phi, essaye d'aller au-delà de l'imaginaire. Il essaye d'atteindre un point qui est au-delà de l'image du corps, au-delà de l'imaginaire. Ce qui est montré ici, dit Lacan, c'est l'élision même, grâce à quoi le phallus n'est plus que le signe de cette absence. Lacan donne encore une indication clinique, en fait, pour essayer de faire advenir cette fonction inédite du grand phi. Il se réfère à l'aphanisis d'Ernest Jones, qui veut dire en fait disparition. Aphanisis, ça veut dire disparition en grec. Alors d'après Jones, ça c'est un peu rapide, mais enfin bon, ce dont il s'agit dans le complexe de castration, ce serait la crainte que le désir disparaisse. On peut entendre ici le désir sexuel. Donc ce qui se passe dans le complexe de castration, c'est l'aphanisis, c'est-à-dire que ce que le sujet craint, c'est que son désir disparaissent. Et Lacan retourne cette idée en disant que le complexe de castration pousse dans la plupart des cas le sujet non pas à craindre la phanisis, donc à craindre la disparition de son désir sexuel, mais à s'y réfugier, à mettre son désir dans sa poche. C'est quand même surprenant. En effet, ajoute-t-il, il est plus précieux que le désir lui-même d'en garder le symbole, qui est le phallus. Alors dans ces pages, là ça c'est la page, je ne sais plus, j'ai pas noté toutes les pages, mais c'est dans le chapitre 16, il ne l'écrit pas encore grand-fi, il écrit encore petit-fi, mais on saisit bien que c'est grand-fi qu'il vise. C'est-à-dire il fait une distinction entre ce qui est le désir sexuel, où le phallus entre en jeu, effectivement, et la castration, et le grand phi qui est au-delà, qui est le symbole du désir d'une certaine façon, et qui est plus précieux que le désir lui-même, donc au point que le sujet est prêt à mettre le désir sexuel dans sa poche. J'y reviendrai tout à l'heure, peut-être en parlant un tout petit peu de la question de l'hystérie. Donc, mais Lacan va encore plus loin. Il ne se contente pas d'extraire le phallus de sa référence à l'imaginaire du corps. Il va situer le phallus symbolique, donc le grand phi, au-delà du signifiant. En effet, il en fait un symbole. Et donc, symbole, c'est pas la même chose qu'un signifiant. Ça s'oppose même au signifiant. Le signifiant, c'est quoi ? Bon, vous le savez, donc Anne nous en a parlé tout à l'heure. C'est ce qui s'oppose à un autre signifiant. C'est ce qui fait chaîne. C'est ce qui fait discours. C'est ce dont témoigne d'ailleurs le petit Hans dans ses opérations. Pour vous vous rappelez, hein, donc, il fait du phallus donc insignifiant, qu'il met en fonction. C'est-à-dire qu'il le fait s'articuler à d'autres signifiants. Est-il enraciné? Est-il amovible? Et à la fin, il trouve une solution, il est dévissable. Donc on voit comment le phallus lui-même est pris dans la chaîne signifiante. Ça, c'est moins phi, c'est le signifiant imaginaire. On le dévisse, on peut en mettre d'autres, etc. Il y a toute une articulation qui se met en place de signifiants entre eux. Le symbole, lui, c'est autre chose. Comme Lacan le dit à la page 283, c'est le seul signifiant qui mérite le titre de symbole. C'est-à-dire qu'il ne s'articule plus avec un autre signifiant. C'est un signifiant tout seul. C'est pour ça que Lacan en fait un symbole. Comme déjà signalé donc, tout à l'heure, j'ai déjà dit, donc à l'époque du Lacan du symbolique, l'expérience analytique n'est plus abordée à partir de l'imaginaire, du stade du miroir, mais à partir du symbolique, de la chaîne signifiante. Et l'expérience analytique, l'analyse, est considérée à partir d'une énigme de départ, dans toutes les permutations possibles d'un nombre limité de signifiants, dit-il. On peut retrouver le cas du petit Hans ici. L'énigme de départ, pour lui, c'est le surgissement du désir sexuel, le frétillement de son organe, qui le pousse dans l'angoisse, car il ne sait pas du tout à quoi cela correspond. Lacan insiste sur ce point dans le séminaire 4. Ce n'est pas la menace proférée par la mère de Hans qui le plonge dans l'angoisse de castration, c'est le surgissement d'une jouissance dans le corps qui va provoquer l'angoisse et pousser Hans à inventer sa phobie. Et dans sa phobie, il va mettre en jeu les signifiants et le complexe de castration. Et d'ailleurs, dans ce séminaire, donc dans le séminaire 4, plusieurs chapitres ont pour titre des signifiants comme circuit, permutation, transformation, ce qui témoigne donc du travail signifiant que fait le sujet. Eh bien, dit Miller, ce travail de toutes les permutations possibles des signifiants en sert cette énigme du départ, sans qu'à la fin elle puisse être résolue. C'est-à-dire qu'elle en sert un impossible. Et c'est lorsque le sujet a fait le tour des différentes façons de dire cet impossible de départ qu'il y aurait comme la solution de l'impossible. Cette solution de l'impossible nécessite, puisqu'elle n'est pas de l'ordre du signifiant qui s'enchaîne, elle est au-delà, c'est un point au-delà, c'est un point extérieur. Donc cette solution de l'impossible nécessite l'introduction d'un terme supplémentaire qui n'est pas de l'ordre du signifiant, mais d'un autre ordre, et que Lacan va appeler grand phi, le phallus symbolique. Donc tout à l'heure, on avait déjà saisi que le phallus se situe au-delà de l'imaginaire du corps. Son point de référence n'est pas dans le corps. Et ici, le phallus symbolique, grand phi, est un élément, un symbole, mais qui est au-delà de la chaîne signifiante. C'est quand même très spécial. Hein, c'est ce qui fait dire à Lacan que le phallus, donc grand phi, a une place, celle de suppléer au point où dans l'autre disparaît la signifiance. Disparaît en fait le fait que les signifiants puissent s'enchaîner les uns aux autres. Donc de suppléer au point où dans l'autre est constitué, ou l'autre, pardon, est constitué par ceci, qu'il y a quelque part un signifiant manquant. D'où la valeur privilégiée de ce signifiant, donc de ce symbole, qui est le signifiant du point où le signifiant manque. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais donc on sent que Lacan essaye de saisir un point au-delà du symbolique. Bon, il faut faire un petit peu, si vous avez lu ces deux chapitres, il faut faire un peu attention, parce que dans le chapitre 16, Lacan utilise encore le terme de signifiant pour dire le phallus symbolique. Il écrit d'ailleurs même « phi », hein. Mais c'est bien de grand phi dont il s'agit, celui dont il dira qu'il s'agit d'un symbole au début du chapitre 17. Donc là, il reprend ça en disant, en effet, ce que j'ai appelé dans la semaine dernière, donc le phi, ce phallus qui qui supplée au signifiant qui manque dans l'autre, eh bien, aujourd'hui, je l'appelle grand-fille. C'est à ce moment-là qu'il introduit le grand-fille proprement dit. Pour dire, donc, le phallus symbolique. D'ailleurs, il redit la même chose. Il dit, c'est donc le grand-fille, c'est le symbole. Ici, donc au début du chapitre 17, il dit plus signifiant du point où le signifiant manque, mais il dit le symbole à la place où se produit le manque de signifiant. Donc, il utilise bien le terme de symbole. Donc, il y a donc un point d'impossible à dire, un point d'indicible, une résistance interne au sujet, qui est inhérente au sujet, qui ne peut pas être franchie. Cette résistance, cet impossible à dire, est une résistance inhérente au sujet en tant qu'il désire. Car, en somme, c'est le propre du désir d'être marqué par le refoulement, d'être inconscient. Le symbole grand-phi est ce signifiant, ce symbole, qui se situe à ce point de refoulement radical, au-delà de l'image, au-delà du système signifiant. Il est, c'est une citation de Lacan dans un texte qui s'appelle « La signification du phallus », qu'il écrit au même temps où il y a du séminaire du transfert. Il est donc le symbole de ce qui est vivant de l'être du sujet dans l'inconscient. Alors, le vivant de l'être du sujet, c'est en fait, on a déjà entendu ça ce soir, c'est en fait ce qui... C'est ce qui, de l'organisme, déborde le corps, comme je le disais tout à l'heure. C'est ce qui déborde le sujet barré comme effet du signifiant. C'est ce qui déborde le sujet qui n'est rien d'autre qu'un signifiant renvoyé à un autre signifiant. Vous connaissez la définition lacanienne du sujet. Enfin, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Donc, c'est-à-dire que le sujet... Et déduit ça, c'est-à-dire le sujet barré, le sujet du signifiant, le sujet de l'inconscient, c'est celui qui est déterminé par la chaîne signifiante, le renvoi des signifiants les uns aux autres. Donc d'une part, ce vivant de l'être du sujet, c'est ce qui déborde est-ce barré, et d'autre part, en effet, cela renvoie à l'organisme qui déborde le corps, comme je le relevais tout à l'heure. En somme, au-delà de l'imaginaire et au-delà du symbolique, Lacan tente de cerner la place du réel. D'ailleurs, il dit du symbole grand phi que c'est la présence réelle, dit-il. C'est une présence réelle. Donc on a l'organisme, le vivant de l'être du sujet, en fait le grouillement du vivant non pris dans les raies du symbolique. On a en somme ici la mise en fonction de ce que Lacan va appeler la jouissance. C'est ce point-là qu'il vise. C'est pourquoi Miller en déduit que si le phallus, dans sa version petit-fi, et le signifiant imaginaire du désir, dans sa version grand-phi, il devient le signifiant de la jouissance dans l'inconscient. Donc on va compléter. Alors, si grand-fille et petit-fille sont radicalement différents, si leur logique est différente, ils sont quand même liés. Enfin, ça s'entremêle, ça se mélange. Voici ce qu'il dit. Puisque ce symbole grand-fille, puisque le rapport du sujet avec le signifiant pur du désir est indicible et invisible, donc au-delà du symbolique, au-delà de l'imaginaire, on ne peut ni le dire ni le voir. Il va se projeter sur l'organe localisable, précis, situable quelque part dans l'ensemble de l'édifice corporel. Il y a, dit-il donc, une projection du symbole grand-phi dans l'imaginaire du corps. Ce sera le petit-phi. Bon, on voit comment les deux s'articulent. Et c'est ce qui fait qu'en effet, avec tous les, ce qu'il disait, les déplacements, les substitutions, etc., donc la dimension symbolique et imaginaire du phallus se confondent, se mélangent. C'est pas si facile de dire d'un côté on a le phallus imaginaire et de l'autre côté on a le phallus symbolique et on fait le partage des os. Non, c'est effectivement ça s'articule. Bon, alors une petite indication pour terminer sur la fin du chapitre 17 où Lacan parle de l'hystérie. Je reviens à cette indication que j'avais déjà dite clinique que donnait Lacan par rapport au complexe de castration. Hein, donc il retourne l'idée de Jones, donc qui articule le complexe de castration à la crainte que les désirs disparaissent, donc ce qu'il appelle aphanisis. Et donc il retourne cette idée de Jones en disant que le complexe de castration, dit-il, pousse donc, dans la plupart des cas, le sujet non pas à craindre la disparition du désir, mais à s'y réfugier, à mettre son désir dans sa poche. En effet, ajoute-t-il, il est plus précieux que le désir lui-même d'en garder le symbole qui est le phallus. Donc ça veut dire qu'il y aurait une tension entre le signifiant imaginaire du désir, enfin le désir concret, d'une certaine façon, et le symbole. Hein, puis il appelle aussi, comment il appelle ça ? Symbole pur, c'est ça ? Symbole pur du désir, quelque chose comme ça. Eh bien, il me semble que c'est ce qu'on retrouve dans sa considération de l'hystérie à la fin du chapitre 17. Lacan reprend le cas d'Aura. Bon, je ne peux pas le reprendre, le cas d'Aura. Je ne peux rappeler ici que... Donc, il s'agit d'une scène où il y a quatre personnages. Il y a d'Aura, son père, une dame, appelée Madame K, et son mari, Monsieur K. Sans doute, vous avez déjà lu le texte de Freud, donc le cas d'Aura, et peut-être entendu l'un ou l'autre commentaire de Lacan au sujet de ce cas. Ce que souligne Lacan, c'est l'erreur de Freud. Freud se trompe car il croit que l'objet de son désir, que l'objet du désir de Dora est M. K. Or, il se fait qu'à un moment précis, au moment où cet homme qu'elle laisse tenter de la séduire, au moment où il dit que sa femme, donc Madame K, n'est rien pour lui, à ce moment précis, Dora renvoie Monsieur K. Car, dit Lacan, le véritable objet de son désir n'est autre que Madame K. Qui figure, dit-il, le grand autre, l'autre absolu, qui incarne pour Dora la question « qu'est-ce qu'une femme ?» Donc, on pourrait dire que Madame K incarne, d'une certaine façon, le symbole pur du désir. Et on pourrait mettre ici Monsieur K, avec qui toute une intrigue amoureuse, enfin, donc... Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais donc... Madame K est la maîtresse du père de Dora, et donc pour soutenir cette relation, elle va jusqu'à se laisser séduire par Monsieur K. Bon, il y a toute une intrigue hystérique là, autour de tout ça. Ça, c'est au niveau imaginaire. Et donc, à un moment donné, elle dit « c'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est le grand-phi qui est incarné par Madame K, la féminité par excellence. » Que veut une femme. Et c'est ça qu'elle veut préserver. Donc ça veut dire que, quand Lacan dit pour le sujet il est plus précieux que le désir lui-même d'en garder le symbole qui est le phallus, c'est ça. Donc il est plus précieux que le désir monsieur K d'en garder le symbole qui est le phallus, donc madame K. C'est ça qu'elle veut préserver. Ce qui est précieux dans la note de Lacan, c'est l'éclairage qu'il donne de la structure du désir de l'hystérique, dont on sait qu'il est insatisfait. Hein, le désir de l'hystérique est marqué par l'insatisfaction foncière, finalement, de son désir. Pour l'hystérique, il y a un côté, c'est jamais ça. Ce qui est après tout la structure du désir. Puisque finalement, on voit bien que il n'y a rien qui peut venir combler la castration, qui peut venir combler le manque. Donc le désir est toujours insatisfait. Eh bien, Lacan avance que si le désir de l'hystérique est insatisfait, c'est parce qu'elle sacrifie son désir, elle échange son désir contre le signe de grand-fille. Elle préfère à son désir le fait que l'autre garde la clé de son mystère. Donc c'est-à-dire Madame K qui garde la clé du mystère de la féminité. Bon, après, donc Lacan dit quelques mots de l'obsessionnel, mais il va développer ça dans le chapitre suivant, donc je ne vais pas, en venir là-dessus. D'ailleurs, j'ai du mal avec ces derniers paragraphes. Simplement pour vous situer la chose, c'est que il va dire que chez l'obsessionnel, le désir n'est pas marqué par l'insatisfaction, mais par le signe, par l'impossibilité. C'est un désir impossible. Voilà. Et il va aussi articuler ça à grand-fille, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Je vais en rester là pour aujourd'hui. J'ai parlé un peu lentement, mais c'était nécessaire pour moi-même pour essayer de retrouver l'articulation de ce que j'avais écrit, de ce que j'avais saisi de tout ça. Donc voilà, c'était pas très long, mais finalement c'est assez ardu. Enfin, c'est donc. Voilà.
Merci beaucoup, Guy Poblom. Alors, j'ai retenu comme point important de votre exposé, au fond, d'une part, la différence entre l'approche des stades et du développemental, comme tel Abraham les a présentés, et au fond, comment Lacan les revisite, et aussi la différence entre finalement la place de la libido chez Freud et chez Lacan. C'était deux axes, me semble-t-il, importants, qui permettaient vraiment d'éclairer toute la progression. Il y a une question qui m'est venue dans la fin de votre exposé à partir d'une phrase que j'ai notée. Si j'ai bien noté, vous avez dit « Puisqu'on ne peut ni voir ni localiser grand-fi, il y aura projection de petit-fi dans une place localisable du corps. » Et donc, au fond, par là même, si j'entends bien, le choix d'un objet particulier, un objet partiel particulier. Et je me demandais ce qu'il en était lorsque, par exemple, on se trouvait dans le cas de la psychose et de justement pas de localisation, par exemple comme dans la schizophrénie où ça part dans tous les sens. Comment on pouvait articuler petit-fi et grand-fi ? Voilà.
Ben oui, c'est vrai que, en fait, finalement, quand j'ai croisé le terme, ce mot de localisation, hein, donc dans le texte de Lacan, c'est un terme à lui, j'ai pensé à ça aussi, à la psychose, justement, c'est que, donc finalement, ça permet, donc le complexe de castration, cette castration radicale, ça permet effectivement, et sa projection finalement sur le corps, ça permet de localiser sur le corps un élément privilégié. Et donc ça permet de localiser la jouissance. Voilà. Elle est localisée au niveau phallique. Donc, ce qui fait que pour un sujet non psychotique, disons pour un sujet névrosé, ben, la signification de la jouissance, elle est phallique. Donc, c'est-à-dire elle est articulée à un manque. Voilà. Par contre, dans la psychose, puisque effectivement, ce qui fonctionne pas, c'est le complexe de castration, c'est l'Œdipe et donc le complexe de castration, effectivement, ben, on n'a pas cette projection localisée. Donc on a en effet une espèce de délocalisation de la jouissance qui envahit le corps et qui se balade dans le corps. C'est-à-dire que oui, ça se promène. Et même ça peut écarteler le corps, ça peut dissocier le corps d'une certaine façon. Hein. Le corps se centre autour de l'image phallique. Et dans la psychose, il y a quand même un éclatement corporel, notamment dans la schizophrénie. Donc effectivement, c'est le retour de la jouissance dans le corps, mais d'une façon tout à fait erratique. Hein. Enfin, on en a le témoignage quand on travaille avec des sujets psychotiques. Alors, qui dit les boules. Alors les boules, évidemment, ça a une connotation sexuelle, les boules, mais les boules, elles se baladent là. Et puis elles sont là, et puis elles se baladent là. Et donc il vous dit comment la jouissance... Elle vient, mais elle n'est pas localisée. Hein. Elle est délocalisée. En effet, donc c'est la localisation phallique, c'est lié au complexe de castration et donc à la névrose. Absolument.